Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans une France bouge exceptionnelle aujourd'hui, au lendemain de la 7e édition des trophées européens de l'avenir. Pendant une heure, nous allons être avec les gagnants, avec les lauréats des trophées européens de l'avenir. Ils seront là, tous, ils seront autour de la table de la France bouge. Et oui, on a eu le plaisir de remettre ces prix en direct hier soir dans une salle bondée. Ça s'est passé à l'Élysée Biarritz à Paris. Allez, je suis sûre que tout le monde est impatient de découvrir les tout premiers lauréats.
Donc le trophée de l'alimentation revient à Circule Egg.
Circule Egg, oui.
Le trophée de la solidarité va à Un abri qui sauve des vies.
Charline Péculier.
Alors le trophée des collectivités locales est à Glowy.
Glowy. Sandra Ray, bravo à vous.
Le trophée de la santé est décerné à...
L'Institut Raphaël.
Bravo. Bravo Alain Toledano, cancérologue et fondateur de l'Institut Raphaël. Bravo à vous. Il est où Alain? Voilà.
Les trophées de l'éducation sont
décernés à Learn and Joy.
Learn and Joy. Bravo à Gaëlle Regnault et Noé Keren. Et on me dit dans l'oreillette que nous avons reçu un message d'un certain Bruno Le Maire.
Bonjour à toutes et à tous, je voudrais vous adresser tous mes encouragements et tout mon soutien pour cette 7e édition des Trophées de l'Avenir d'Europe 1.
Alors, le trophée de la mobilité, il est accordé à Gueuleplug.
Gueuleplug ! Henri Trintignac, fondateur de Gueuleplug.
Alors, le gagnant est Sencrop.
Sencrop.
Sencrop. Martin Ducroquet.
Merci.
Le lauréat, vous l'avez ?
Alors, c'est l'inverse des Césars. C'est-à-dire que là, on demande l'avis au public et à nos auditeurs. Ouais. Donc, le suspense est à son comble.
Étypique.
Avec Nicolas Morbi. C'est le lauréat du coup de cœur des auditeurs des Trophées européens de l'avenir 2022.
Merci.
Ça s'est passé hier soir à l'Élysée Biarritz à Paris pour cette 7e cérémonie des trophées européens de l'avenir. Hein. 32 candidats, 32 entreprises étaient en lice pour remporter le trophée de leur catégorie dans 8 catégories. Bonjour Nathalie Carré.
Bonjour Elisabeth.
On a passé une bonne soirée hier
Très
soir.
Très bonne soirée.
Hein. Vous êtes en charge de l'entrepreneuriat, la Chambre de commerce et d'industrie. Vous êtes présente chaque jour hein, dans la France bouge. Vous conseillez les personnes qui viennent pitcher justement, qui déposent une candidature pour pouvoir peut-être être un jour ou l'autre dans les trophées européens de l'avenir. Pendant toute l'année, des entrepreneurs femmes et hommes viennent pitcher, nous présenter leur projet. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan, c'est l'heure de la photo de famille. Elle est belle au lendemain de cette cérémonie qui a eu lieu hier soir. Beaucoup d'émotions. Beaucoup de pépites, Nathalie, une France comme on l'aime. Hein.
Une France comme on l'aime, avec des beaux projets, avec beaucoup de valeurs représentées, incarnées, beaucoup d'émotions. Oui, c'était une belle soirée, c'était une jolie France.
Une jolie France comme on l'aime, avec ces trophées de l'avenir, ces trophées européens de l'avenir qui récompensent chaque année des talents, des entrepreneurs, des pépites, avec un jury composé d'entrepreneurs, de personnalités. Allez, tiens, entre autres, il y avait Bernard Werber, écrivain, Claude Crémieux, professeur et infectiologue à Saint-Louis, Helmoud Mood, le président de l'université Paris-Dauphine, y avez-vous, Nathalie Carré, Philippe Colléon, le PDG d'Acadomia, Thomas de Richebourg, le patron de Richebourg Environnement, Ariel Schwab, Davas, et tout ça, c'était sous toutes ces personnes, c'était sous la présidence d'Elena Poincé, présidente de Tetris, et qui nous a fait l'honneur d'être la présidente du jury cette année. Bonjour Elena.
Bonjour Elisabeth.
Vous allez
Bonjour
bien après cette belle soirée d'hier soir? Ouais,
c'était magnifique, effectivement. Et puis un jury composé de personnalités totalement différentes, ce qui a permis aussi d'avoir des débats très mouvementés.
Oui,
hein, Elisabeth, on s'en souvient, c'est vrai. C'est vrai que c'était très dur de mettre à l'honneur.
On était parti pour une heure de délibération.
On en a eu deux heures et demie. Oui.
C'est ça. Non, mais c'est vrai.
Non,
c'est
vrai. Passionnant parce que c'était ce sont des personnes venues d'horizons totalement différents. Le point commun de toutes ces entreprises, finalement, ces associations qui étaient là pour ces trophées européens de l'avenir, c'est qu'on a l'impression qu'elles ont toutes un petit temps d'avance, Elena.
Oui, complètement. C'est vrai que C'est de l'innovation folle. Bon, bah, on a bien avec... je me souviens plus de ton prénom.
Ah, Justine qui vient d'entrer dans le studio, cofondatrice de Circuleg, Circuleg,
bon, bah, c'est quasiment extraordinaire. Comment penser à utiliser des coquilles d'œufs pour en faire quelque chose qui va servir. Et puis, non, mais énormément de choses innovantes, énormément de belles personnalités, des projets qui peuvent aller bien sûr à l'international. Donc, c'est fantastique.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ou une entreprise ou une personnalité aussi, parce que derrière chaque entreprise, il y a des personnes.
Peut-être ce qui m'a le plus marqué, c'est effectivement tout ce côté collectif. En fait, c'est l'intérêt général et c'est ce qu'on ressent au sein de beaucoup de ces différentes sociétés, c'est-à-dire le sens au travail. Le sens, tu vois, d'avoir quelque chose qui serve à quelque chose et puis d'entreprendre. Cette notion aussi, cette émotion, cette énergie qu'on a ressentie tout au long de cette soirée.
Et qu'on ressent, nous, chaque jour dans La France Bouge. Vous avez dit pendant votre discours, Elena Poincet, que nous pouvions être fiers d'être en France, que nous avions de la chance d'être ici.
C'est vrai. Mais c'est vrai qu'on a de la chance d'être en France parce qu'on est soutenu, parce qu'on a une France qui est forte et qui nous aide. Et puis, une facilité de vie par rapport à d'autres pays du monde où... Quelque part, ici, tout est fait.
On se plaint toujours, mais on ne demande pas. Alors, pas la France Bouge, mais c'est vrai qu'on a des infrastructures assez remarquables. On a des plateformes logistiques. Enfin, on a 3000 aides. C'est le pays où il y a le plus d'aides ou plus d'acteurs pour entreprendre. Et je ne sais pas pourquoi on se plaint tout le temps. Mais c'est vrai, on a un très beau pays pour entreprendre. Donc, et la preuve.
Et la preuve avec ses trophées Europe 1 de l'avenir. Allez, place au premier lauréat. C'est une lauréate dans la catégorie alimentation. Bonjour Justine Lecaillier.
Bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans La France Bouge. Vous êtes la cofondatrice de Circuleg. Félicitations, puisque vous êtes la lauréate dans la catégorie alimentation. Ça va bien depuis hier soir?
On redescend peu à peu. C'était une soirée très riche en émotions, très intense. La nuit a été courte. Mais c'est que du positif, donc bien sûr, ça va très bien.
Pour que tout le monde comprenne bien, on le rappelle à nos auditeurs, votre start-up a été lancée il y a 2 ans. C'est une solution qui revalorise les coquilles d'œufs, hein, c'est ce dont parlait Elena tout à l'heure. Ces coquilles d'œufs dont on ne fait rien aujourd'hui. Vous, pendant le confinement, vous vous êtes dit, on va en faire quelque chose, on va les revaloriser.
Effectivement. Alors, il y a les vieilles recettes de grand-mère qui disent que les coquilles, on peut les utiliser dans le compostage, par exemple. Mais ça ne suffit pas. Et surtout, à l'échelle industrielle, on est sur des volumes de 40 000 tonnes rien qu'en France, 160 000 en Europe. Et aujourd'hui, ces coquilles, bah, par souci de valorisation, elles sont juste incinérées ou épandues, donc faiblement valorisées. Alors même qu'il s'agit d'une véritable pépite avec beaucoup, beaucoup de bienfaits.
Et dans ces bienfaits, vous les revalorisez justement dans plein de choses, notamment dans les compléments alimentaires, dans la nutrition animale?
Animale et humaine également.
Et humaine.
Parce que la coquille, c'est 2 constituants. Une partie externe qui est composée de carbonate de calcium, qui est un minéral qu'on retrouve dans énormément d'applications, notamment la nutrition animale. Et puis surtout, il y a cette petite pellicule blanche, la membrane, cette fameuse membrane, qui contient du collagène, de l'acide hyaluronique, de la chondroïtine sulfate, des mots un peu barbares, mais qui vont être très utilisés.
Il faudrait la manger, en fait, parce qu'à chaque fois, quand je l'étale, je la retire. Et finalement, en fait,
c'est une source protéique très importante, plus de 90%. Donc, on peut aussi l'utiliser comme substitut durable, végétarienne, aux protéines carnées, par exemple. C'est des discussions qu'on a en cours avec des acteurs.
Alors, la suite, c'est quoi quand on... Voilà, là, il faut rappeler, hein, chaque lauréat va gagner une campagne de publicité sur Europe 1. C'est important.
C'est une sacrée visibilité. C'est vraiment le sujet de tout notre start-up. C'est bien les innovations, mais comment on fait pour apparaître et pour être visible au milieu de toutes ces innovations? Oui. Donc, et ça, ça vaut plus que 10 000 euros. Hein. Enfin, ça vaut plus.
Totalement. Surtout que nous, on a vraiment vocation à être une vraie marque engageante aussi. On est une marque B2B, mais on veut aussi parler aux consommateurs finaux. Donc là, l'objectif, on cherche aussi à recruter. On est en pleine phase de recrutement. Donc s'il y a des auditeurs et auditrices qui nous écoutent, dans des ingénieurs de production, des ingénieurs process, n'hésitez pas à aller voir notre site. On prépare notre deuxième levée de fonds pour ouvrir notre démonstrateur industriel au plus près des casseries. Donc ça, c'est une prochaine étape aussi importante. Donc s'il y a des partenaires, des investisseurs qui nous
écoutent... C'est le moment, Nathalie.
Bah, c'est le moment et en même temps, alors, c'est très personnel ce que je vais dire, mais j'aimerais tellement que des entreprises comme les vôtres, en fait, restent des entreprises familiales, patrimoniales, peut-être s'adosser à des entreprises existantes, parce que c'est ce qui vous permet d'avoir un temps long pour continuer à innover, pour faire passer bah, les turbulences hein, de la vie d'entrepreneur, parce qu'il y en aura. Alors que c'est vrai que quand on est derrière avec beaucoup d'investisseurs, parfois, on se retrouve un peu pressé, pressurisé par le temps. Et voilà, comme vous êtes une belle pépite, j'aimerais que vous ayez du temps pour avancer pendant encore 50 ou 70 ans. Alors, oui. S'il y a une belle entreprise française qui a envie...
Oui, bien ancrée, bien installée.
Bien ancrée, bien installée.
Elena ?
Oui, mais en même temps, le temps, c'est ce qui compte. Enfin, c'est le danger pour n'importe quelle société. C'est-à-dire, il faut des bons de commande. Il faut pouvoir vivre, il faut pouvoir avancer et recruter, investir, avoir des subventions, ça fait pas tout, ça aide. Mais il faut après démarrer. Effectivement, il faut des bons de commande et il faut les trouver. Et c'est ce qu'il y a de plus dur pour une start-up.
Oui, parce que une fois qu'on a les bons de commande, il faut suivre aussi.
Et ouais, oui,
il faut produire. Exactement.
Et il y a tout le service après-vente. Et il y a plein c'est de ça. Choses à prendre en compte, etc.
Et bien sécuriser aussi l'amont. On en parle peu, mais les fameuses casseries et les éleveurs de poules aussi qui sont plus en amont. Ouais. Nous, on veut vraiment créer des partenariats gagnant-gagnant avec une rétribution du chiffre d'affaires généré in fine grâce aux coquilles. À tous les acteurs de
donc,
la filière.
Donc l'intérêt pour la casserie, par exemple, de travailler avec vous ?
Eh bien, tout d'abord, c'est aujourd'hui, elle a un coût pour valoriser ses coquilles. Et nous, on le supprime. Et même, on va encore plus loin. On va rétribuer une partie du chiffre de la valeur ajoutée générée. On va leur rétribuer également à elles pour que ça devienne, que ça les intéresse et qu'elles se sentent vraiment gagnantes dans ce partenariat sur le long terme.
Une belle pépite, ça s'appelle Circule Egg, un trophée Europe 1 de l'avenir 2022 dans la catégorie alimentation. Merci Justine Lecallier d'être venue aujourd'hui dans la France Bouge. On vous souhaite bonne chance, donnez-nous de vos nouvelles surtout. Vous restez avec nous sur Europe 1 pour cette émission spéciale au lendemain des trophées Europe 1 de l'avenir, il est 13h14.
Europe 1, la France Bouge. Elisabeth Assayag.
La France bouge, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est une émission spéciale aujourd'hui avec les gagnants des trophées Europe 1 de l'avenir édition 2022. Et oui, parce que chaque année, depuis 7 ans, Europe 1 récompense des associations, des entreprises pour leur audace, leur innovation et qui s'inscrivent dans un monde qui change. Hier soir a eu lieu donc cette 7e cérémonie des trophées Europe 1 de l'avenir. C'était à l'Élysée Biarritz, en plein cœur de Paris. Ça nous a fait du bien. Je suis toujours avec Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, ça nous a fait du bien parce que déjà l'année dernière, on l'avait fait dans les conditions sanitaires. Il y avait à peine 60 spectateurs hein, qui avaient pu se déplacer. Là, on avait comme un sentiment aussi de renouveau. On recommence et on avance.
Et on avance. Et puis, je trouve que dans tous les projets, en fait, il y a une catégorie solidarité, mais finalement, elle est complètement transverse. Oui. Parce que finalement, que ce soit solidarité envers la planète ou envers les autres, il y avait vraiment cet esprit de solidarité dans tous les projets. C'est ce fameux sens qui revient systématiquement. Et voilà, et ça fait du bien.
Ça fait du bien. Nous sommes toujours avec Elena Poincet, notre présidente du jury, cofondatrice de Tetris. On va maintenant évoquer la catégorie solidarité. Ça aussi, c'était une catégorie qui n'était pas évidente. Hein. Vous vous souvenez pendant les votes hein.
Oui, c'est vrai que c'était assez complexe parce qu'en fait, on a envie de tous les nommer.
C'est un peu le problème.
Donc, c'est complètement le problème. Et il a fallu faire un choix à une voix, deux voix près. Et c'est vrai que ça fait du bien de sentir aussi toute cette solidarité qui est, comme tu l'as fait, monter des idées, les mettre en œuvre. Et puis tout ça doit déclencher derrière beaucoup de choses et de bien-être aussi pour tout le monde.
Pour tout le monde, et ça fait du bien. Justement, nous sommes avec vous, Charline Péculier, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes la cofondatrice d'un abri qui sauve des vies, trophée Europe 1 de l'avenir dans la catégorie solidarité. Félicitations. Vous aussi, hein, comme Justine, vous avez 24 ans, et pendant le confinement, vous avez eu cette lumineuse idée, vous vous êtes dit, il y a des violences familiales et des violences conjugales, je vais essayer de leur apporter mon aide.
Oui.
Il y a un problème dans l'hébergement d'urgence. Moi, j'ai la solution.
Bah, c'est ça, c'est né en fait de la recrudescence des violences conjugales et intrafamiliales pendant le confinement. On en parlait beaucoup et on parlait beaucoup du fait qu'il y avait peu de solutions d'hébergement. Et en fait, si vous n'arrivez pas à vous extraire du domicile, si vous n'avez pas de solution d'hébergement d'urgence, c'est très difficile de partir. Donc nous, on voulait offrir une complémentarité à l'hébergement d'urgence qui existe aujourd'hui en faisant appel à la solidarité nationale, tout simplement, donc à des particuliers, des professionnels, des collectivités territoriales qui peuvent prêter un logement vacant ou une partie de logement en cohabitation.
Donc, des logements en cohabitation, ça veut dire quoi ? Une famille là, qui vous écoute, elle a une chambre de libre, elle peut accueillir une femme qui est en détresse aujourd'hui ?
Effectivement, elle peut accueillir une femme, pourquoi pas avec ses enfants, hein, selon la capacité, évidemment, chacun fait comme il peut. Et ça permet vraiment à la personne victime de violence de retrouver une vie sociale. Parce que généralement, on est très isolé dans les violences. Et les violences, c'est pas seulement physique, il y a tout un contexte aussi autour. Qui fait qu'on est isolé socialement. Et quand on retrouve, du coup, en cohabitation, une famille qui vous aide, qui vous tend la main, ça permet déjà de faire le premier pas vers la reconstruction. Bah, c'est très important.
Combien de temps dure l'hébergement ? On ne va pas s'installer ?
Oui, bien sûr.
Il y a un temps...
En fait, y a pas de, on n'oblige pas à une durée minimale. Donc, c'est les personnes qui accueillent, qui choisissent selon... évidemment, le temps qu'elles ont. Généralement, les personnes s'engagent pour une semaine, par exemple.
Ah, c'est
en
pas
disant,
juste une semaine. Mais c'est suffisant pour le temps de la reconstruction ?
Alors, les gens s'engagent pour une semaine dans un premier temps en disant « on va voir comment ça se passe ». Et puis bon, généralement, ça se passe bien. Et donc, ça continue un peu plus longtemps. Ça dépend vraiment des personnes. Alors, on essaie d'avoir... Généralement, la personne victime de violence n'a qu'un hébergement d'urgence. On essaie de pas... évidemment la faire
pour que cette stabilité ce cocon retrouvé perdure un petit peu
et ça peut nous arriver par contre ça peut nous arriver quand effectivement on a besoin encore d'accompagner la personne de la mettre dans une deuxième famille c'est pas gênant en soi parce que elle est toujours bien accueillie mais effectivement on essaie de limiter
et
quand
vous
même.
Allez leur rendre visite vous assurez une continuité un suivi
alors on assure un suivi déjà téléphonique donc on a un bénévole une bénévole généralement qui s'occupe de l'abritant, donc qui est toujours en contact avec l'abritant, et une bénévole qui est en contact avec la victime. Donc des bénévoles différents pour vraiment voir, suivre chacune des personnes pour voir si tout se passe bien. Et puis effectivement, on s'appuie surtout sur des associations locales qui, elles, prennent en charge la victime de violence.
Nathalie ?
Oui, parce qu'en fait, il y a tout le suivi, effectivement. Et puis après, il y a un vrai logement qui doit arriver. Donc c'est vraiment l'urgence. Mais c'est l'essentiel, c'est ce qu'on se disait pendant le débat. C'est si elles n'ont rien pour s'extraire, c'est ce que vous disiez, elles retournent.
Bien sûr.
Et jusqu'à la prochaine fois qu'elles auront le courage, et peut-être qu'il n'y aura pas cette prochaine fois où elles auront ce courage. Donc votre solution est essentielle, oui.
Et je suis contente parce que pour l'instant, et là, je touche du bois, même si vous ne voyez pas le faire.
vous le faites, hein. Donc, c'est pas du bois, c'est pas du bois, mais c'est pareil.
on n'a pas eu de retour à domicile, c'est-à-dire qu'une personne victime de violence qui a été hébergée chez nous n'est jamais retournée au domicile.
Ça, c'est un vrai succès. Oui.
Voilà. Enfin, au domicile avec son agresseur.
Alors, comment je fais là pour nos auditeurs, nos auditrices ils ont envie de vous aider pour un abri qui sauve des vies. Il y a un site internet, il y a quoi ?
Oui, alors on a un site internet qui s'appelle unabriquisauvedesvies.fr, donc tout attaché. Et donc, il y a un formulaire à remplir si vous souhaitez être abritant. Il est assez facile à remplir. Après, sinon, on a une situation, donc c'est surtout de la France métropolitaine. Sinon, on a une situation proche de chez vous, on vous appelle. Et évidemment, il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire que si vous êtes disponible, super, on organise, on a un contrat de cohabitation, un contrat de prêt de logement à titre gratuit. Par contre, si effectivement vous n'êtes pas disponible pour X ou Y raison, il n'y a pas besoin de justifier, ce sera pour une autre fois. Donc voilà, il faut vraiment se sentir serein, c'est très très souple comme association.
Très souple. Ça s'appelle un abri qui sauve des vies, Trophée Europe 1 de l'avenir dans la catégorie solidarité. Merci à vous Charline Péculier pour ces belles idées, pour toute cette audace, hein, il fallait le faire. Et bravo à vous. Gros plan sur la catégorie santé, un prix qui a été remis hier soir par Mélanie Gomez, notre journaliste santé et présentatrice de l'émission Bien fait pour vous sur Europe 1, et Lionel Comol, le directeur de la fondation Arthritis. Bonjour Alain Toledano.
Bonjour.
Vous allez bien depuis hier soir ?
Ça va.
Vous avez apporté votre trophée, mais c'est tellement joli. On peut le voir si vous nous suivez en direct sur europe1.fr. Vous êtes cancérologue et fondateur de l'Institut Raphaël, situé à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine. Cet Institut Raphaël, c'est un centre qui accueille gratuitement les malades et même ceux qui vont mieux. C'est pas forcément malade, même c'est après la maladie. Donc pendant et après la maladie, la mission de l'Institut Raphaël, c'est donc de prendre en compte la dimension global du patient, à la fois psychologique, émotionnel, sexuel et social. Donc vous prenez, vous, Alain Toledano, le patient dans sa globalité.
Oui, on a de la chance en France. Je crois que c'est important de commencer comme ça.
On l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, on n'arrête pas.
On a de la chance.
On a vraiment de la chance. Alors on a un système de santé, c'est 260 milliards d'euros par an. c'est 11% du produit intérieur brut. C'est plus que tous les pays de l'OCDE. Donc la France fait un effort considérable. Malgré tout cela, ça nourrit quand même le mécontentement, ce système de santé, de beaucoup d'usagers et de professionnels qui peuvent être frustrés. Et on a des tensions financières, des rigidités d'organisation. Alors en fait, on pense que c'est le changement de paradigme qui est nécessaire. C'est pas uniquement de libérer des fonds supplémentaires. Passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie.
Donc c'est à la fois le traitement, mais aussi sa vie et tout ce qui va avec.
Est-ce que les médecins sont prêts à ça? Parce que la médecine chinoise, l'anticipation, la prévention, c'est quand même pas complètement nouveau. Les thérapies alternatives, c'est pas complètement nouveau. Est-ce que les médecins français, dans leur cadre de leur formation, sont prêts à accepter cette prise en charge globale comme vous le prônez et vous le faites?
C'est la prévention, c'est important parce que 40% des cancers sont évitables, 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables, mais on a moins de 3% des budgets qui sont alloués à la prévention. Et ça, si on travaille simplement sur l'alcool, tabac, sédentarité, surpoids. Donc en fait, le message de la prévention, il est pénétrant. Après, c'est la manière avec laquelle on fait les choses. Il faut que ce soit démontré, il faut qu'on soit responsable pour engager les fonds de la solidarité. Mais en tout cas, prendre en charge de façon globale, c'est mieux que si on prenait en charge la maladie. Et donc tout le projet, Raphaël, c'est l'ange de la guérison, c'est de proposer un pilote pour accompagner cette transformation de la santé, s'occuper de chaque individu.
Alors pour qu'on comprenne bien, ce pilote ressemble à quoi aujourd'hui? Parce que finalement, c'est un peu votre système de santé idéal que vous avez mis en place.
C'est le mini-système, la mini-sécu version.
Vous savez, il y a 20 millions de Français qui sont atteints de maladies chroniques. Alors on entend par là insuffisance rénale, diabète, endométriose, insuffisance cardiaque. Bien sûr, on a augmenté l'espérance de vie en France à 80 ans, mais on n'a pas augmenté l'espérance de vie en bonne santé, qui reste à 60 ans. Donc en fait, on dépense 100 milliards d'euros chaque année pour gérer des maladies chroniques. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on se disait hier, on coupe la parole aux patients au bout de 23 secondes en moyenne, et on prescrit des médicaments dans plus de 90% des cas. Et on jette une boîte sur deux, on jette 7 milliards d'euros par an. Alors peut-être qu'on a une autre manière de faire, intégrer bien sûr des acteurs paramédicaux qui vont donner le temps, des sophrologues, des sexologues, des psychologues, des nutritionnistes, des professeurs d'activité physique, tout un tas de disciplines qui vont servir à mobiliser les ressources intérieures de chacun parce qu'on a les ressources en nous ou à délivrer des nouveaux outils. Donc il existe des interventions thérapeutiques non médicamenteuses. Il existe surtout un système où on ne va pas s'occuper que de la maladie. On va s'occuper de la santé psychologique, bien sûr, la santé émotionnelle, la santé sexuelle, la santé sociale et maintenant la santé environnementale. On voit bien avec ces perturbateurs endocriniens, la qualité de l'eau, de l'air. Vous savez qu'il y a 9 millions de morts par an de pollution dans le monde. C'est plus de 100 000 morts par an en France. C'est comme si chaque année, la ville de New York disparaissait. Donc la santé environnementale, c'est aussi important que certains remèdes médicamenteux qu'on administre au quotidien.
Donc l'Institut Raphaël, pour nos auditeurs, c'est ce centre gratuit, c'est important de le préciser, où la personne qui est atteinte d'un cancer peut aller et penser à autre chose que sa chimiothérapie.
Alors, bien sûr, on prend en charge le cancer, mais également d'autres pathologies chroniques, également les aidants. Et on va co-construire des parcours d'accompagnement avec chaque patient qui vont être orientés vers la nutrition, les émotions, l'activité physique, le bien-être et aussi l'aide pour le retour à l'emploi. Parce qu'il y a une personne sur trois qui quitte ou perd son travail dans les 2 ans après le diagnostic. Et des fois, c'est pas de leur fait. C'est parce que les entreprises savent pas les réintégrer. Elles cultivent la performance. Elles pensent que c'est une fragilité, un cancer, mais les gens qui ont combattu, qui ont vaincu, ils sont forts. Mais l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, elle dépend du regard de l'autre. Donc il faut changer le regard de l'autre.
Et vous contribuez à cela. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Alain Toledano, pour les 5 prochaines années pour l'Institut Raphaël?
Je pense que ces valeurs pénètrent et que chacun se sente légitime à revendiquer le droit à la santé et pas uniquement à la gestion de sa maladie. Ensuite, qu'on puisse essaimer nos valeurs et puis fabriquer des institutions. Pas que des Raphaël.
Mais si, des instituts Raphaël, voilà. Partout en France.
Voilà. Mais qu'il puisse y avoir une préoccupation de la santé globale, qu'on arrête de différencier, d'expertiser, qu'on puisse faire la synthèse, développer l'altérité, l'humanisation de la médecine, et montrer qu'on gaspille moins quand on s'occupe des gens, quand on s'occupe exclusivement de la maladie. Et ensuite qu'on puisse pérenniser l'Institut Raphaël comme nos systèmes qui s'occupent des patients, parce qu'il n'y a pas de finances pour ça. On peut payer aujourd'hui un antidépresseur pendant 20 ans, on le rembourse aux 4 millions de Français qui ont eu un cancer, mais pas une séance de psychologue. Donc il faut des modèles financiers.
Merci Alain Toledano, trophée européen de l'avenir 2022 dans la catégorie santé. On vous souhaite des instituts Raphaël partout en France. Merci à vous. Il est 13h28 sur Europe 1.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Bienvenue dans La France bouge, si vous nous rejoignez. Oui, La France bouge pour une émission très particulière, très spéciale. Aujourd'hui, une émission exceptionnelle au lendemain de la 7e édition des trophées Europe 1 de l'avenir. Et oui, on vous en parle depuis le début de l'année, hein, n'est-ce pas, Nathalie Carré? Chaque jour avec le pitch des trophées Europe 1 de l'avenir. Ils viennent pitcher, Nathalie donne des conseils. Et bien voilà, tout ça, on a pu un peu le matérialiser hier.
Ça a abouti
et on était très très fiers parce qu'il y a eu... en fait, il y avait 32 candidats. On aurait pu en mettre beaucoup plus, le double voire le triple. C'est toujours très très compliqué de choisir, hein. Et d'ailleurs on a eu la joie d'avoir comme présidente du jury cette année Elena Poincé, qui est parmi nous aujourd'hui, cofondatrice de Tetris. Là on va passer à la catégorie mobilité. Là aussi les débats ont été très animés pendant les délibérations parce que chacun avait un argument. Oui, mais moi je pense que ça c'est mieux. Oui, mais ça va être plus davantage servir pour l'avenir. Bref, et finalement c'est Gueuleplug qui l'a remporté. Bonjour Henri Trintignac.
Bonjour.
Et bienvenue et bravo surtout dans La France bouge, puisque vous, Henri Trintignac, fondateur de Gueuleplug, vous êtes, on peut le dire, révolutionné. Vous êtes en train de révolutionner le monde de la voiture électrique.
Et oui, puisqu'on va proposer un système de charge automatique. Donc c'est quoi? Vous disposez ce système sur votre place de parking habituelle. Et puis tous les soirs, quand vous arrivez, vous vous stationnez comme d'habitude. La voiture se connecte. Le lendemain matin, quand vous montez dans la voiture, la batterie est chargée, vous repartez, c'est automatique.
Et c'est rapide?
Et c'est complètement invisible.
Complètement invisible. Donc vous basez sur la technique de l'électromagnétique finalement.
Voilà, c'est une technologie électromagnétique qui nous permet de connecter la voiture au réseau par une prise.
C'est complètement l'avenir là, quand on sait que le déploiement des bornes de recharge s'accélère en France. On en a besoin parce que tout le monde nous dit qu'il faut se mettre à la voiture électrique. Oui. Sauf que les infrastructures ne sont pas toujours là, ne sont pas toujours au rendez-vous. Vous êtes une solution.
Voilà, surtout que, vous savez, aujourd'hui, en Europe, seulement 2% des véhicules sont électriques. Donc, il y a 98% des Européens à convaincre. Et les freins pour convaincre les Européens à passer à l'électrique, c'est l'autonomie et la charge. Et la charge automatique, self-plug, résout ces deux problèmes-là. C'est plus un problème.
Ce qui est intéressant, c'est ce que vous disiez hier, c'est la suite. C'est-à-dire que comme on ne recharge pas trop souvent finalement, parce qu'on utilise nos voitures électriques pour des petits trajets, vous nous obligez en fait, entre guillemets, à recharger. Et du coup, ce qui est rechargé, vous le stockez pour après alimenter, demain en tout cas.
C'est ça. L'étape d'après, c'est en effet d'utiliser la batterie pour stocker de l'énergie. Et si on charge la voiture tous les jours, eh bien, on échange 3 fois plus d'énergie entre le véhicule et le réseau. Donc, ça veut dire qu'on va accélérer la réduction du CO2, hein, et on va aussi accélérer la souveraineté énergétique de la France et de l'Europe.
Notre présidente du jury, qu'en pense Elena Poincé?
Non, mais je trouve ça fantastique parce qu'effectivement, on aimerait acheter tous une voiture électrique pour aussi avoir plus d'autonomie. Et puis, effectivement, ces notions de bornes électriques, mettre dans sa cour, enfin, c'est toujours très compliqué. Et si on peut arriver à avoir ça en B2C, donc c'est vraiment formidable. Ça va nous permettre d'ouvrir effectivement une autre voie du véhicule électrique. Et c'est vrai qu'on en a vraiment besoin. La planète en a besoin et donc c'est formidable.
C'est formidable. Henri Trintignac, pour qu'on comprenne bien, aujourd'hui, c'est en phase de test. On ne peut pas encore en trouver partout des Gueuleplugs.
Alors non, on ne va pas en trouver tout de suite parce que ça nécessite d'aménager le véhicule et donc ça nécessite de travailler avec les constructeurs automobiles. Et leur délai de développement, c'est quelques années, 4-5 années. Donc on trouvera le dispositif dans 4 ou 5 ans. Et... Le point important, si vous voulez, c'est qu'il faut viser ce marché-là, parce que c'est là où on a le plus de leviers.
Vous en êtes où, là, dans les discussions
On commence des projets.
Quand ils vous voient arriver avec votre solution, ils réagissent comment?
Alors, on est en discussion permanente avec 8 des 10 plus grands constructeurs mondiaux, et on commence des projets avec 4 d'entre eux, pour être clair. Et ça veut dire que...
C'est bien parti.
Oui. En fait, il en faut un qui... Parce que finalement, il aura une sacrée avance, celui qui va vous dire oui.
Qui dit oui le premier, il prend de l'avance.
C'est ça.
Et il faut qu'on arrive à faire plusieurs succès en même temps, parce qu'après, ça veut dire que self-plug va devenir un standard. Et donc, non seulement on pourra se connecter chez soi, mais plus long terme, on pourra aussi connecter sa voiture dans n'importe quel parking ou sur n'importe quelle place.
Donc
dans
vous allez
rue.
Remplacer les prises électriques qu'on a dans les parkings maintenant.
Alors à plus long terme, peut-être, c'est certainement. Ça, en fait, oui, c'est notre objectif à plus long terme.
On a
bien
peut-être
sûr.
Une future licorne.
Exactement.
C'est ça, hein,
exactement.
Elena. Oui, vous aussi, future licorne pour Tetris. Merci Henri Trintignac d'être venu aujourd'hui dans La France Bouge, trophée Europe 1 de l'avenir 2022 dans la catégorie mobilité avec votre solution Gueuleplug. Merci à vous d'être venu aujourd'hui. On va passer maintenant à une autre catégorie, une catégorie qui est un peu particulière puisqu'il ne s'agissait pas du vote du jury, mais du vote des auditeurs. Ce vote des auditeurs, c'est souvent une initiative qui a du sens, qui peut avoir un impact sur la société, un impact sur le monde de demain. Et là aussi, c'est encore une start-up qui a été fondée pendant le confinement. Il y a eu des tonnes d'idées pendant le confinement. Mais comment vous l'expliquez, ça?
Bah en fait, ils n'avaient rien à faire.
Et qu'est-ce qu'on peut faire?
À quoi ça me fait penser quand on dit qu'il faut que les enfants s'ennuient?
Et voilà.
A développé la créativité. Là, il s'agit d'une toute nouvelle façon de recruter. Peut-être est-ce la façon de recruter de demain. Bonjour Nicolas Morbi.
Bonjour.
Bravo pour votre trophée coup de Europe 1 du coup de cœur des auditeurs. Hein. C'est pas le jury, là, ce sont les auditeurs qui ont voté pour vous. Vous avez fondé Etypique. Etypique, c'est pas moi qui vais écrire à l'entreprise une lettre de motivation pour trouver un travail avec mon CV. C'est vous qui faites du recrutement dans la rue.
Exactement. Déjà, bien merci pour ce prix, vous les auditeurs. Effectivement, pour recontextualiser la chose, ça a été créé en plein confinement avec un triste constat, à savoir qu'il y avait énormément de personnes qui ne trouvaient pas de travail. Et à côté de ça, il y a des centaines de milliers de postes non pourvus faute de candidats. Donc les personnes qui ne trouvent pas de travail, c'est pour plusieurs raisons. Soit ils sont inscrits ou pas au Pôle emploi, soit ils sont trop éloignés pour savoir par où commencer. Résultat des courses, les entreprises n'arrivent pas à recruter. Et surtout, surtout sur les métiers en tension, ils n'arrivent pas à les toucher. Donc grâce au trade sourcing, donc autrement dit, grâce au recrutement dans la rue, l'idée c'est de toucher les personnes là où ils se trouvent.
Mais comment on vous reconnaît dans la rue? Comment on sait que vous êtes sérieux et que c'est pas un truc, il y a écrit Etypique, comment on vous reconnaît?
Exactement, en fait il y a Etypique, on a un kakémono, trouver le travail qui vous correspond. Et l'idée c'est de vous aborder à la sortie des métros avec la même méthodologie que les personne qui vous aborde pour Médecins du Monde.
Mais comme les chasseurs de mannequins, en fait, ils font ça, les chasseurs de mannequins, ils se baladent.
Et
exactement. À la différence près que là, on va proposer du travail.
Oui.
Vous imaginez bien. On va se baser non pas sur votre physique, mais sur votre savoir-être, grâce à un questionnaire élaboré par une autre
entreprise. C'est très important ce que vous dites, Nicolas Morbi. Vous dites sur votre savoir-être.
Oui.
Donc là, on s'éloigne des CV. On s'éloigne des bac plus 12. C'est quoi le savoir-être?
Le savoir-être, en fait, c'est le critère le plus important dans le recrutement à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir quelqu'un qui a un savoir-être et qu'on peut, en tout cas, former techniquement, parce que les personnes techniques, on ne les trouve plus. Et donc, du coup, il y en a plein les rues, les personnes qui ont le savoir-être.
C'est quoi les personnes techniques qu'on ne retrouve plus?
Je pense les vertiges d'artisanat, par exemple, la chaudronnerie, je pense notamment au canis de Tordeaux, le BTP. Il y en a tellement des métiers, en fait, où les entreprises peuvent former techniquement ces personnes-là. Les personnes, les millions de personnes, les auditeurs notamment, ont envie de travailler. Ils ont un message à faire passer, que ce sont des magnifiques personnes, des talents, qui méritent que d'être connus. Et par le biais du street sourcing, l'idée c'est de leur faire remplir un questionnaire élaboré par une docteure en sciences cognitives qui permet de mettre en avant leur savoir-être. C'est ensuite de regrouper par rapport aux besoins de l'entreprise, voir si ça match. Et après ensuite, résultat des courses, on a des personnes très éloignées qui trouvent un emploi et des entreprises surtout qui trouvent des candidats qui correspondent.
Qui ne seraient jamais trouvés autrement, oui, c'est clair.
Exactement.
Et en plus, ça vaut la peine parce que compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre, pénurie de talents, de candidats dans tous les domaines en ce moment, vous êtes en train de combler les entreprises, vous.
Effectivement, il y a une forte demande. C'est pour ça qu'on est dans une démarche de levée de fonds. Nous recherchons des fonds pour pouvoir accélérer ce déploiement national.
Combien, allez-y, c'est le moment. Ouais, c'est le moment. Vous allez avoir une campagne sur Europe 1, mais tout de même, combien?
L'idée, c'est de lever 1,4 million d'euros pour vraiment accélérer ce déploiement et faire en sorte que ça soit une norme et que ce soit un canal supplémentaire par rapport à ce qui existe à l'heure actuelle.
Elena Poincé.
Oui, je trouve l'idée fantastique parce que ça permet de reconnecter en fait l'humain qui est un peu perdu et qui est quelque part dans la rue, puisque c'est ce que tu dis, et puis le remettre dans le monde du travail. Donc, c'est quelque chose qui est très fort et je pense que ça va marcher.
Ça va marcher. Ça va marcher. Vous, dans la cybersécurité, ça va. Vous avez.
Nous, on n'a pas assez de monde.
Vous n'avez pas assez de monde. La transition écologique ne se fera pas si on n'a pas des chaudronniers, si on n'a pas des artisans, des métiers qu'on a complètement oubliés, parce qu'on en a besoin pour souder des éoliennes, etc. Et ceux-là, effectivement, ils ne se disent peut-être pas qu'ils vont aller travailler dans ces métiers-là. Donc, il faut aller les.
Parce que vous les formez une fois qu'ils rentrent dans la boîte, dans l'entreprise. Grâce au savoir-être. Non, pas vous. Mais une fois que vous les avez trouvé un profil grâce au savoir-être et grâce à votre questionnaire, ils vont dans l'entreprise et là, il y a des formations. Donc finalement, ils n'ont pas de souci à se faire. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas chaudronniers de base qu'ils ne peuvent pas le devenir.
Exactement, mais
ils ne le savent pas.
C'est-à-dire qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent aller dans la cybersécurité parce qu'il y a des formations qui sont éligibles à des personnes qui sont qualifiées.
Et une école de formatrice. Oui, en plus, on a une cyberacadémie, oui, tout à fait.
Et c'est pour ça qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de permettre aux personnes de se dire: vous avez le savoir-être et moi, je peux vous permettre d'avoir le savoir-faire.
C'est sûr.
Et aujourd'hui, le savoir-être, je crois que d'après nos chefs d'entreprise, ça a l'air d'être un peu le sujet
c'est
majeur.
C'est le critère. Voilà, c'est ce que vous regardez. Démontrer le talent. Hein, voilà, ce qu'on veut voir, c'est du talent et plus qu'un CV, oui, effectivement.
Du talent plus qu'un CV. Ça s'appelle Étypique, Nicolas Morbi. Bravo, vous êtes le trophée Europe 1 de l'avenir dans la catégorie coup de cœur des auditeurs. Ce sont les auditeurs qui vous ont choisi, qui vous ont élu fondateur de Étypique. Cette nouvelle façon de recruter, c'est peut-être le recrutement de demain finalement.
Complètement.
Merci à vous. Allez, place à une autre catégorie, la catégorie environnement. Vous restez avec nous. On accueille maintenant Martin Ducroquet. Bonjour Martin.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Sencrop. Sencrop, d'abord félicitations puisque vous êtes le trophée européen de l'avenir dans la catégorie environnement. Sencrop, pour résumer, ce sont des mini-stations météo qui permettent, ce sont des capteurs qui permettent à l'agriculteur de visualiser ce qui se passe sur leur parcelle, mais aussi sur les champs qui sont autour de leur parcelle et d'agir quand il le faut et donc pas à tout moment.
Exactement. Donc c'est une application mobile que les agriculteurs sont beaucoup en mobilité, donc ils utilisent leur smartphone énormément, matin, midi, soir, pour s'organiser, pour aller faire leurs travaux. Et en fait, tout simplement, ils vont se connecter via ce mobile à des capteurs qui sont aux environs, qui sont parfois mis en place par leur syndicat de vignerons, leur coopérative, leur chambre d'agriculture, les gens avec qui ils travaillent, donc tous les groupements de producteurs, que ce soit en grande culture, viticulture ou arboriculture, où ils vont pouvoir eux-mêmes s'équiper d'un capteur, et puis ils vont le mettre à un, deux, trois endroits, sachant que la météo, c'est une pression très locale, en fait. Il peut y avoir des grosses variations d'un coteau à l'autre, d'un endroit à l'autre. Et donc, en fait, cette variation de conditions météo, notamment la pluviométrie, donc la pluie, la température de l'air, l'hygrométrie, la luminosité, ont un impact important par rapport à la plante, en fait, aux plantes, que ce soit des gens qui font de la pomme de terre, du blé, de la vigne ou du kiwi. Ils vont avoir besoin de cet outil pour visualiser en temps réel, donc des données qui remontent sur leur application, des conditions locales. Et donc, grâce à ça, un, ils vont mieux s'organiser, savoir dans quelle parcelle ils doivent éventuellement intervenir pour aller semer, pour aller traiter, pour aller irriguer. Et puis deux, ils vont pouvoir vraiment avoir également, grâce à ces données qui remontent en temps réel, des possibilités de voir l'évolution des plantes et également avoir des alertes sur des maladies qui peuvent se développer. Puisque la donnée météo est une donnée clé de la croissance de la plante, mais aussi l'arrivée de maladies. On sait que certaines maladies, certains champignons vont arriver si l'hygrométrie est forte. Et donc tout ça va conditionner son travail et va l'aider à faire de l'agriculture de précision, être plus performant dans ses travaux.
Vous avez implanté, je crois, près de 22 000 capteurs là, partout en Europe, pas qu'en France.
Voilà, donc on a démarré l'histoire. On a démarré l'histoire il y a 6 ans avec mon associé, donc Mickaël. Aujourd'hui, l'équipe, c'est une centaine de personnes. Et d'ailleurs, je remercie vraiment Europe 1 et le jury de nous avoir retenus parce que c'est une fierté pour toute l'équipe. Et donc, en effet, aujourd'hui, c'est 25 000 capteurs déployés alors, en France d'abord, parce que c'est vraiment un grand marché agricole, énormément de production. Les agriculteurs français sont référents, y compris ont de l'avance sur l'agroécologie.
C'est important de le dire, les agriculteurs français ont de l'avance.
On l'avance vraiment sur les pratiques agronomiques et sur la transition agricole environnementale.
Ils sont hyper technophiles en plus.
Et ils sont technophiles. Et puis on est présent également en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas et dans 25 pays d'Europe. Et on aide quelque part indirectement, et c'est pour ça que ça a une portée importante, ce trophée de l'environnement. On aide la transition agro-environnementale, c'est-à-dire que il faut que les agriculteurs s'appuient sur des outils simples, une application qui permet de voir en temps réel ce qui se passe sur leur territoire, pour les accompagner et engager avec leurs conseillers techniques, avec les gens qui vont leur faire du service beaucoup plus personnalisé et donc de faire de l'agriculture de précision et intervenir au bon moment, au bon endroit.
Intervenir au bon moment, Elena.
Non, je trouve encore une fois cette idée fantastique. Et puis surtout, moi je vois en région bordelaise, puisque Tetris est à Bordeaux, donc tout le gel qui pour le raisin qui peut arriver justement au début du printemps, etc. Donc c'est des aides extraordinaires. Et après, toute cette data, là, j'allais dire, puisque c'est énormément de data. Moi, je ne sais pas, l'agriculteur, comment est-ce qu'au départ, il a complètement adhéré, ou est-ce que c'est les jeunes générations d'agriculteurs qui ont plus adhéré?
Qui adhère à Sencrop?
Non, on a
tout le monde,
de
témoignages. Et des entrepreneurs.
Voilà, les agriculteurs sont, quelque part, l'agriculture a été connectée, des jeunes vingtaines d'années, et des presque tracteurs connectés automatiques. Oui. Hein. Oui. Donc, notre outil est vraiment très collaboratif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de Waze de l'agriculture, c'est-à-dire que l'agriculteur va pouvoir visualiser beaucoup de points de données autour. Donc, il est d'accord pour partager ces données à partir du moment où il peut lui-même visualiser
à l'échelle
du territoire, c'est gagnant-gagnant. Et ils sont curieux de ça. Et ensuite, cette donnée, en effet, elle va pouvoir alimenter des modèles autres, éventuellement alimenter le tracteur qui va pouvoir... Voilà, donc ça peut, on ouvre des voies nouvelles dans cette agriculture de précision.
Et c'est ça l'entrepreneuriat, c'est qu'en permanence, il y a quelque chose qui arrive.
On implémente des nouvelles choses.
Et puis voilà, c'est une boule de neige.
C'est une boule de neige, ça s'appelle Sencrop, ça a à peine 6 ans. Bravo Martin Ducroquet, trophée européen de l'avenir dans la catégorie environnement. Merci d'être venu aujourd'hui dans La France Bouge au lendemain de cette belle cérémonie des trophées européens de l'avenir. Il est 13h47.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Et une France bouge spéciale aujourd'hui avec les lauréats des trophées Europe 1 de l'avenir édition 2022, hein, 7e édition. 7, c'est un chiffre important, c'est ce qu'on disait hier, parce que le chiffre 7, c'est une forme d'aboutissement. Et c'est vrai que ce qui pouvait paraître un petit peu exotique il y a 5 ans, aujourd'hui, c'est passé ici à la France bouge. Et concourir pour les trophées Europe 1 de l'avenir, c'est quasiment devenu un passage. Hein. D'ailleurs, un enjeu, les directeurs d'école nous le disent parfois. Hein, et même vous le voyez. Vous voyez, à la CCI, hein, Nathalie Carré, vous avez des personnes des qui vous écrivent et qui vous disent « Mais moi je veux passer à la France Bouge parce qu'il y aura un avant, un après. » Et c'est vrai qu'il y a un avant et un après. Nous sommes toujours avec notre présidente du jury de cette année, Elena Poincé, cofondatrice de Tetris. Et on l'a vu, on l'a entendu, c'était difficile de choisir parmi les 32 entreprises, associations qui font bouger les lignes dans notre pays. Place au Trophée Européen de l'Avenir dans la catégorie collectivité locale avec une remettante qui a été la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement auprès du ministre de l'Éducation nationale, Sarah El Haïry, qui est allée dans les territoires découvrir cette jeunesse. Écoutez ce qu'elle nous disait hier soir.
La force de cette énergie, la force productive de ces énergies. Ce qui est certain, c'est que pour réussir une transformation, pour répondre aux besoins, eh bien, il faut prendre le temps d'écouter. Il faut prendre le temps de faire confiance. Et on ne prend pas assez le temps de faire confiance. Parce qu'en réalité, on ne prend pas le temps de se regarder. On ne prend pas le temps de discuter. On ne prend pas le temps, parfois, sans même parler de préjugés, juste de prendre le temps de savourer et de célébrer les réussites, les parcours. Et quand j'ai eu la chance de vivre cette belle aventure gouvernementale, eh bien j'ai vu une jeunesse qui entreprend, une jeunesse qui a envie d'agir, une jeunesse qui parfois boude, c'est vrai, nos urnes, l'expression démocratique la plus classique, mais qui s'engage, qui fait, qui crée, qui innove.
Et qui cherche du sens.
Exactement. Et ce sens, si on lui donne les moyens, eh bien de le mettre pleinement en œuvre, alors elle démultiplie sa capacité d'agir. Je suis aussi élue locale et plus que jamais, nous avons besoin, en tant que responsables de collectivités ou de mandats nationaux, eh bien, de cette énergie créatrice, de ces innovations et finalement de cette soif d'avenir positif. Parce que oui, les transformations, les transitions n'auront lieu que si on voit l'avenir beaucoup plus rose, malheureusement, que ce qu'on peut entendre parfois. Et moi, j'ai confiance en ma France, j'ai confiance en cette capacité d'innovation, j'ai confiance dans cette jeunesse, et c'est pour ça que je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui.
En tout cas, vous donnez toute votre énergie, là, ça fait du bien. Et oui, c'est vrai que même en la réécoutant en italien, on a l'énergie, là, allez, vive la France, et on a confiance. C'était Sarah El Haïry, ancienne secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, et aujourd'hui députée de Loire-Atlantique. Alors, nous sommes avec vous, Sandra Ray, félicitations.
Merci.
Vous êtes la fondatrice de Glowy, trophée Europe 1 de l'avenir dans la catégorie collectivité locale. Glowy, c'est une technologie, on peut dire, de rupture qui va révolutionner notre éclairage dans les villes.
C'est ça.
Parce que vous utilisez la technique de la bioluminescence.
Exactement.
Racontez-nous un petit peu.
En fait, on utilise les capacités naturelles qu'ont beaucoup d'organismes vivants à produire de la lumière, les lucioles, les vers luisants, et aussi plus de 80% des organismes marins. L'objectif, c'est d'amener cette bioluminescence sur la Terre, et notamment dans les villes, parce que c'est une lumière qui, du coup, est biosourcée, biodégradable, qui va pouvoir aussi agir sur la pollution lumineuse, donc la lutte contre le dérèglement des écosystèmes d'insectes, enfin, toute la faune et la flore de manière générale. Et donc, nous, on travaille vraiment à intégrer cette bioluminescence dans du mobilier urbain pour dessiner des nouvelles philosophies d'éclairage dans les villes.
Alors, donc ça s'appelle Glowy. Vous êtes en train de bouleverser nos paysages. Ça veut dire que peut-être à terme, on trouvera des villes éclairées seulement grâce à vous.
Oui, c'est vraiment l'objectif. Et notamment, on travaille beaucoup dans les zones piétonnes, dans les zones qui sont à la frontière entre la nature et la ville, sur les places. C'est les zones qui deviennent majoritaires en fait dans nos villes aujourd'hui, avec des grosses transformations en termes d'aménagement. Et l'idée, c'est vraiment de proposer une nouvelle manière de les éclairer avec cette bioluminescence pour assurer à la fois un sentiment de sécurité, de bien-être, une attractivité aussi de la ville, tout en ayant une démarche responsable.
Et elle est douce, cette lumière, je trouve.
Oui. Enfin,
quand on a vu les images, c'est tout, tout soft, tout cocon. C'est pas agressif.
C'est vrai. Et puis, on imagine ça aussi, je ne sais pas, de voir, je ne sais pas comment ça va se représenter au final, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais on a l'impression qu'on peut être en contact directement avec les océans en étant sur la Terre. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait rêver,
harmonie,
en fait.
Une harmonie.
Mais c'est une diffusion, en fait, la bioluminescence, par sa qualité de lumière et par l'imaginaire en fait, qu'elle développe, a un aspect émotionnel qui est hyper fort. Et ça, c'est très nouveau dans le domaine de la lumière, parce que même si la lumière est censée justement apporter de l'émotion, de l'ambiance, de la mise en environnement, Non, mais du coup, c'est une dimension qui est très importante parce que la lumière, elle sert aussi à ça, notamment dans le paysage urbain. Elle sert à créer une identité, elle sert à créer une ambiance. Et donc, quand on lui amène en plus une dimension émotionnelle et naturelle, ça fait toute la différence.
Trophée européen de l'avenir dans la catégorie collectivité locale. Aujourd'hui, Glowy, c'est où? Je crois que c'est déjà en test sur des villes.
Oui, on a le premier projet pilote là, de mobilier urbain avec la ville de Rambouillet qui arrive à la fin de l'année. Donc, ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce contrat avec cette ville. Et puis après, on travaille sur une cinquantaine de projets aujourd'hui de déploiement à partir de 2023 jusqu'à 2027, des projets d'aménagement avec soit des collectivités, soit des aménageurs.
Bravo Sandra Ray, fondatrice de Glowy, Trophée européen de l'avenir, dans la catégorie collectivité locale. Nathalie,
Et vous avez quel âge?
J'ai 31 ans.
Voilà, donc on avait quand même une soirée de bébés entrepreneurs.
Ouais. Ils avaient tous 31 ans et ils ont profité du confinement.
C'est moi la plus vieille, en fait.
C'est ça. Et moi, je voudrais quand même saluer notre système éducatif français parce que ça veut dire qu'en plus, ils ont tous fait des grandes études. Eh bien, ils ont abandonné les grands... Ils ont abandonné les grands groupes pour se lancer et redonner du sens. Et je trouve que ça fait partie de...
C'était un projet étudiant, de mon côté. C'est transformé en...
Mais c'est souvent des projets étudiants aussi qu'on retrouve dans nos projets dans la France Bouge. Merci à vous, Sandra Ray. Dernière pépite du jour, c'est l'heure d'Enjoy avec vous, Noé Keren. Bonjour.
Bonjour.
On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes le tout jeune PDG de l'heure d'Enjoy. Vous avez 27 ans, on est toujours dans les bébés. C'est la fondatrice Gaëlle Regnault qui vous a donné les clés, ce qu'elle nous expliquait hier soir à la cérémonie.
Tout à fait. Donc ça fait 4 ans que je suis à l'heure d'Enjoy. J'y suis allé
à l'âge de 27
spontanément.
Ans.
À l'âge de 23 ans, du coup, en sortant d'études.
C'est 27 moins, moins 3, moins 4, oui, voilà. Ok.
Et c'était une entreprise que j'ai croisée à un moment important, et j'ai tout de suite voulu investir toute mon énergie, et aujourd'hui, ça porte ses fruits, puisqu'on a réussi à arriver là où on en est aujourd'hui ensemble. Grâce à Gaëlle et grâce à toute l'équipe.
Learn and Joy, c'est une solution qui naît grâce aux tablettes, à l'intelligence artificielle. Ce sont des programmes quasiment sur mesure pour que chaque enfant puisse apprendre à son rythme en lien avec le professeur ou l'AVS, assistante de vie scolaire. Vous êtes le lien entre l'élève et le professeur.
C'est ça. Hein, on va reprendre.
C'est du quasiment sur mesure.
On va reprendre l'ensemble des programmes scolaires, de la maternelle au collège, et on va faire en sorte qu'ils s'adaptent au niveau de chaque élève. En proposant donc des activités, on va décomposer en petites marches pour que chaque élève puisse avancer à son rythme. Et l'enseignant va pouvoir choisir de suivre les recommandations qu'on va effectuer avec de l'intelligence artificielle pour proposer des parcours adaptés au profil des élèves ou d'en proposer d'autres. Mais en tout cas, ça va être un support pour réaliser cet idéal que l'école s'adapte aux possibilités et au potentiel de chaque élève. On œuvre pour ça.
Vous, Noé Keren, vous avez fait des très hautes études, vous êtes ingénieur, mais vous êtes resté vraiment, vous avez vraiment voulu intégrer Learn and Joy. Qu'est-ce qui motive une personne comme ça de 23 ans qui j'imagine, a plein de portes qui s'ouvrent. Pourquoi aller vers une start-up comme ça dans les tech, dans l'éducation?
Donc effectivement, j'ai fait de hautes études, notamment une spécialisation en intelligence artificielle. Mais au fond,
dans quelle école?
Avec Centrale. Mm-hmm. Et puis en partant au Danemark et en double diplôme. Et effectivement, au fond, ce que j'aimerais être, c'est travailler avec les élèves, avec les enfants. Sauf que j'ai voulu quand même utiliser l'investissement que j'avais réalisé dans ces études et aussi l'investissement que l'État a fait en ma personne pour me permettre de réaliser ces études, pour faire avancer l'école, pour révolutionner les manières de transmettre, pour qu'il n'y ait plus ces 1 million d'élèves décrocheurs scolaires qui restent en dehors des programmes, en dehors du système scolaire, pour que les 60% des élèves qui ont des troubles de l'apprentissage, qui n'arrivent pas à trouver des modes de scolarisation qui leur conviennent, puissent raccrocher les wagons, avoir les apprentissages fondamentaux qui leur permettent ensuite d'avoir une vie qui est la plus normale possible.
Et vous êtes déjà en train de nouer des liens avec le ministère de l'Éducation nationale. On vous a remarqué, on vous écoute, et petit à petit, les choses sont là aussi en train de bouger au plus haut niveau.
Tout à fait. Donc, on a beaucoup œuvré pour une école plus inclusive. Aujourd'hui, il y a 20 000 élèves qui ont déjà bénéficié de nos outils, de nos applications. On vise de faire beaucoup plus. Et aujourd'hui, on est référencé par l'Éducation nationale parmi une trentaine de startups qui proposent des applications pédagogiques vraiment pertinentes pour les enseignants. Et notamment avec le dispositif territoire numérique éducatif qui concerne 12 départements en France, on va pouvoir être diffusé massivement dans les écoles. Et nous, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite que tous les enseignants et tous les élèves puissent bénéficier de notre démarche.
Elena Poincet, notre présidente du jury.
Oh oui, effectivement, c'est fantastique parce qu'on dit les enfants qui décrochent, mais les enfants qui décrochent, quelquefois, ce sont des enfants qui ont peut-être des difficultés, mais il y a des enfants qui ont une intelligence naturelle et qui décrochent aussi parce que le rythme scolaire qui est employé par l'éducation...
Et les programmes ne sont pas adaptés à leur cerveau.
Aussi pour lui, et du coup, si effectivement on peut rattraper, puisqu'il y a un tronc commun pour toute la France, mais si on peut rattraper que ce soit ceux qui n'y arrivent
les
pas et
extrêmes.
Ceux qui sont les deux extrêmes, alors là, c'est fantastique parce qu'on va pouvoir justement donner plus d'envie et
élever le niveau aussi.
Élever le niveau complètement global. En France. Ouais.
Nathalie.
Oui, puis l'enjeu, il est vraiment là. C'est-à-dire que si on loupe la première. Chaque marche loupée, que ce soit à la maternelle, à la primaire, c'est quasiment irrattrapable. C'est ce que j'expliquais à mon fils. Tu sais pas, une première marche, t'arrives à la passer. Mais la deuxième marche, c'est le pas est trop grand. Donc, il faut jamais louper aucune marche et donc il faut consolider.
Et le permet. Voilà, Lord Enjoy le permet. Bravo à vous, Noé Kiren, PDG de cette belle entreprise, hein, Trophée Europe 1 de l'avenir dans la catégorie éducation. Félicitations à vous, donnez-nous de vos nouvelles, hein, parce que nous, on aime bien savoir ce que deviennent nos belles entreprises et surtout nos beaux et nos bons lauréats. Merci à vous,
merci
à Elena Poincet, notre présidente du jury.
Merci,
pour
Elisabeth.
Ces Trophées Europe 1 de l'avenir 2022, 7e édition, cofondatrice de Tetris. On vous reviendrez nous voir, hein, Elena, on compte sur vous. Hein.
J'y compte bien.
Ils osent, ils ont l'audace. Une fois de plus, cette année, les entrepreneurs et les associations ont été au rendez-vous. Merci à tous, un merci tout particulier à notre chef de projet cette année, édition 2022, Yann Hamon. Et on se retrouve demain, vendredi, Nathalie Carré pour France Bouge, qui va découvrir encore les talents et les pépites françaises. Nous serons avec le PDG d'Interflora. À demain, tout de suite, le Flash, suivi de Christophe Ondelat.